Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Voix d'Exil, le média d'information en ligne destiné à l'expression libre des personnes migrantes. Je suis Omar Odermatt, responsable de la rédaction. Nous sommes le lundi 3 mars 2025 et aujourd'hui, nous allons parler d'un projet phare que la rédaction a développé tout au long de l'année 2024. Il s'agit de notre nouveau site internet qui sera prochainement mis en ligne. Nous avons souhaité explorer les coulisses de son développement et surtout vous présenter ses nouvelles fonctionnalités. Pour en parler, j'ai tout d'abord le grand plaisir d'accueillir les développeurs du nouveau site, Raphaël Lourdin de Culture Web et Hervé Cotrez de Absilom. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Soyez les bienvenus dans cette émission en duplex entre Lausanne et Genève. Culture Web et Absilom sont des agences de communication genevoises expertes en communication numérique que nous avons mandatées pour créer notre nouveau site. J'accueille également Alexis à côté de nous. Bonjour Alexis.
Bonjour Omar.
Tu es civiliste à la rédaction et tu étais pleinement investi dans ce projet durant une grande partie de ton service civil ici à Voix d'Exil.
Heureux d'être ici.
En tout cas messieurs, merci de me rejoindre sur le plateau de Voix d'Exil. Alors, le développement du projet du site internet a nécessité pas mal d'implications et d'acteurs. Alors, je vous propose peut-être de contextualiser un petit peu la démarche et de découper un peu les différentes phases du projet. Donc, le nouveau site est le fruit d'une longue collaboration entre Voix d'Exil, Culture Web et Absilom. Alexis, pourrais-tu peut-être commencer par nous décrire ces différentes étapes ?
Exactement. Alors oui, l'idée de refaire le site internet remonte à 2022 et justement les 20 ans de Voix d'Exil. Ensuite, vers la fin de 2023, il y a un appel d'offres dans lequel ont été sélectionnés Culture Web et Absilom. Et donc, nous avons décidé d'aller de l'avant avec ces entreprises pour justement refaire le site internet. Début 2024, une ancienne rédactrice et graphiste à Voix d'Exil qui s'appelle Christine Costava a développé plusieurs maquettes de Voix d'Exil qui reflétaient justement les idées de la rédaction. Elle s'est aussi inspirée de différents sites internet qui existent en Suisse. Et donc, la rédaction s'est prononcée sur les idées qu'ils voulaient amener vers l'avant sur justement ce nouveau site internet. Ensuite, tout au long de l'année 2024, il y a eu l'étape du développement. Et finalement, début 2025, il y a eu encore une fois une phase de peaufinage dans laquelle la rédaction a de nouveau, et les membres de la rédaction ont de nouveau été impliqués, y compris, donc vraiment, c'était vraiment l'idée qu'ils puissent voir une version bêta du site internet, y apporter leurs suggestions et leurs modifications avant la mise en ligne. Il y a eu certains acteurs qui ont pris part tout au long de la réalisation de ce site, y compris Afif Ghanmi, coordinateur de programme à l'EVAM. Bien sûr, toi, très cher Omar Dermat, il y a aussi eu, bien sûr, avant moi, Malcolm Bonnet, qui était civiliste avant moi à la rédaction de Voix d'Exil.
Très bien. Donc, un projet collaboratif, un travail d'équipe. Et qui était impliqué durant tout le processus ? À quel niveau et sur quelle plage de temps ? Du côté de Culture Web et Absilom, hein, Raphaël et Hervé ?
Oui. Alors, écoutez, moi, de mon côté, en fait, le gros du travail a été effectué fin 2023 avec l'analyse du site existant, par la suite la définition d'une nouvelle interface et d'une nouvelle expérience utilisateur. Et en fait, le tout basé sur un cahier des charges qui avait été mis en place par l'équipe de Voix d'Exil.
Très bien, merci Raphaël. Et bon, du côté de Hervé, oui ?
Oui, mais donc moi de mon côté, j'ai surtout assuré la partie technique du site en fait. Donc, c'est vraiment retranscrire les templates que vous aviez décidé en web, en fait, au format web.
Et maintenant, une question assez générale. Hein. Donc, on a vu avec Alexis, il y a eu un appel d'offres. En quoi est-ce que vous trouviez ce mandat intéressant et pourquoi est-ce que vous avez répondu à cet appel d'offres ? Peut-être Raphaël, pour commencer.
Alors, pour moi, un des aspects intéressants était que nous ne partions pas d'une feuille blanche. L'idée, ce n'était pas de tout révolutionner, mais de faire évoluer l'ancien site et puis essayer d'apporter les standards actuels en termes de web design et d'expérience utilisateur. Et un des autres aspects très intéressants, c'était de participer à notre échelle à la mission de Voix d'Exil, à savoir de donner la parole aux personnes migrantes.
Merci Raphaël. Quant à vous, Hervé ?
Un peu pour les mêmes raisons que Raphaël. Hein, déjà un projet très intéressant, journalistique, donc ça sort un peu de l'ordinaire, on va dire. Donner aussi, bien sûr, la parole importante aux réfugiés. Et, avec un petit plus, c'est que j'avais personnellement travaillé à l'Office des réfugiés il y a longtemps, donc ça m'a rappelé de bons souvenirs en plus.
À l'ODR, hein, c'est ça l'ancêtre du SEM.
Oui, exactement, oui. Il y a une paire d'années de ça. Ouais.
Très bien. Et Maintenant, je m'adresse à tout le monde. Comment s'est déroulée cette collaboration entre Voix d'Exil, Culture Web et Absilom? Peut-être Alexis pour commencer.
Alors oui, alors c'est vrai que donc, comme je l'ai déjà annoncé avant, je suis arrivé en plein milieu de projet, mais en tout cas la collaboration a été super, elle était vraiment incroyable depuis le début. J'ai pu découvrir un peu aussi comment un site internet est fait, ce qui est bien sûr quelque chose de très intéressant. Mais c'est vrai qu'entre des mails, des discussions, que ce soit par en ligne ou même en présentiel, avec le fait que Hervé et Raphaël soient venus plusieurs fois à l'EVAM justement pour discuter des avancées du projet, c'était vraiment une collaboration superbe.
Bien, merci Alexis. Quant à Raphaël, qu'avez-vous pensé de la collaboration? Comment s'est-elle déroulée? Et peut-être Hervé en enchaînant.
C'est vraiment très bien passé. Tout était très fluide, organisé. Donc, on a pu vraiment, à chaque étape, avancer pour arriver aux objectifs.
Oui, moi, j'ai trouvé aussi que tout le monde était quand même une équipe très impliquée aussi, et puis très professionnelle. Donc, c'était très agréable et, comme disait Raphaël, très fluide.
Très bien. Maintenant, je vous propose de plonger vraiment dans la matière du nouveau site internet, hein, de le faire découvrir à nos auditeurs et auditrices. Donc, comme vous l'avez mentionné, hein, vous n'êtes pas parti d'une feuille blanche, hein, vous avez essayé de matérialiser des idées, d'améliorer une structuration. Justement, je vous propose de parler de structuration du site. Quelles ont été, en gros, les interventions que vous avez pu mener sur ce site? Parce que ce site propose donc 7 catégories distinctes pour faciliter la recherche d'informations. Il y a eu tout un travail de recatégorisation des articles. Comment est-ce que vous avez réussi à rendre plus fluide la lecture du site? Parce que, je le rappelle, peut-être un des problèmes, c'est qu'aujourd'hui, Voix d'Exil a plus de 1300 articles en ligne. Comment s'y retrouver dans cette pelote de laine, quelque part? Je pense qu'il y a eu tout un travail de clarification, n'est-ce pas? Peut-être Alexis pour commencer.
Oui, je peux commencer, et puis je suis sûr que Raphaël et Hervé auront pas mal de choses à dire aussi par rapport à cela. C'est vrai que, comme tu l'as dit, Omar, au début, il y avait vraiment un problème sur l'ancien site, qu'on avait pas mal d'articles, mais c'était très dur de retrouver les articles qui intéressaient que ce soit les lecteurs, les utilisateurs, ou même nous, au sein de la rédaction, parfois, c'était pas simple de s'y retrouver. Donc, il y a vraiment eu un travail de recatégorisation. 1300 articles, différents thèmes, différentes formes, que ce soit des recettes, des poèmes, des analyses, des témoignages. Il y avait vraiment beaucoup de... Il fallait, comme tu as dit, démêler cette pelote un peu pour justement s'y retrouver. Et donc, vraiment, il fallait partir de l'idée pour que l'utilisateur puisse s'y retrouver le plus facilement sur le site internet.
Très bien. Et donc, il y a eu quand même tout un travail de réflexion, enfin, peut-être pour commencer au niveau de la conceptualisation, si vous êtes d'accord, il y a eu tout un travail de réflexion au sein même de la rédaction, hein. Nous avons mené plusieurs séances pour repenser tout ça, déjà.
Oui. Alors, c'est vrai que ce soit au sein de la rédaction ou même après avec Hervé et Raphaël, c'était vraiment une idée de quelle catégorie choisir. Donc, on a fini justement avec ces 7 catégories et un peu plus d'une trentaine d'étiquettes qui permet vraiment de s'y retrouver beaucoup plus facilement sur le site internet, que ce soit si une personne cherche justement, comme je l'ai dit, une recette ou je ne sais trop quoi.
Très bien. Merci Alexis. Oui, alors peut-être Hervé, alors est-ce que vous souhaitez apporter des précisions?
Oui, bah l'idée c'était vraiment d'améliorer l'accès à l'information et de donner la possibilité à un visiteur du site de pouvoir justement catégoriser les articles qu'il allait lire, et ça de manière facile quoi, et rapide. Ce qui n'était pas le cas effectivement sur le précédent site.
D'accord, donc toute une réflexion autour de l'expérience utilisateur. Raphaël, est-ce que vous souhaitez apporter un ajout?
Oui, alors effectivement, pour augmenter la lisibilité, plein de petites choses qui ont été améliorées. Le fait d'avoir une recherche performante, de pouvoir, comme le disait Hervé, pouvoir filtrer les catégories. Ça améliore l'expérience utilisateur, la lisibilité et le confort de lecture.
Très bien. Donc, toujours dans ce travail de structuration, peut-être je m'adresse cette fois d'abord aux développeurs. Quels ont été un peu les défis que vous avez rencontrés dans tout ce processus d'élaboration du site?
Ça a surtout été une collaboration justement avec la rédaction pour pouvoir toutes les bonnes étiquettes, ne pas en avoir trop, justement, pas non plus noyer les visiteurs dans une masse de filtres, d'être efficace. Donc, ça a été surtout un travail collaboratif, en fait, de trouver la bonne proportion, en fait, entre le trop et le trop peu.
Très bien. Merci Hervé. Et Raphaël, quel défi?
Alors, de mon côté, quand j'ai réalisé les maquettes, le défi, effectivement, c'était de pouvoir, au niveau de l'interface utilisateur, mettre en avant ces filtres qui soient identifiés comme filtres pour justement faciliter l'expérience utilisateur. Donc, c'était un des gros défis.
Très bien. Et toi, Alexis?
Bah alors moi, donc j'étais vraiment au cœur de cet aspect de la recatégorisation, car il fallait justement repartir de tous les articles qui avaient été publiés au fil des 10 dernières années. Et c'est vrai qu'en tant que civiliste, quand tu arrives dans une rédaction, tu découvres un peu les articles, tu connais bien sûr pas les articles qui ont été publiés avant toi. Et parfois, juste avec le titre de l'article, c'est pas assez pour découvrir de quoi l'article est en train de parler. Donc il y avait vraiment un travail de même relecture de certains articles pour choisir dans quelle catégorie ils allaient se retrouver et aussi de les étiqueter. Et parfois, il y avait des choix qu'il fallait faire parce qu'on n'était pas... C'est vrai qu'en 10 ans, le monde change et la rédaction change elle aussi et les personnes qui s'y trouvent. Donc c'était vraiment un défi de découvrir et de bien catégoriser ces articles pour que l'utilisateur et le lecteur, une fois qu'ils se retrouvent sur le site, puissent quand même trouver des articles dans une catégorie qui sont en lien les uns avec les autres.
Rappelons-le, donc tu as recatégorisé 1200 articles. Combien de temps est-ce que ça t'a pris tout ça ?
Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que ça a commencé, je pense, vers septembre et j'ai dû finir vers mi-novembre. Donc, je dirais peut-être 2 mois au fur et à mesure. C'est vrai qu'il n'y avait pas que ça à faire puisqu'il fallait aussi travailler au sein de la rédaction, mais ça a pris pas mal de temps. Ouais.
Très bien, merci. Et donc, pour poursuivre notre entretien, j'aimerais quand même le rappeler, depuis sa création en 2010, le site Voix d'Exil propose des contenus en 3 langues, hein, principalement en français, mais également en anglais et en arabe. Sachant que la section française est la plus développée et que les sections arabes et anglaises sont moindres car elles nécessitent à chaque fois une traduction à partir du français. Et donc, comment la gestion du contenu multilingue a été organisée dans le nouveau site, hein? Donc au niveau de l'interface, hein, ce que les utilisateurs découvrent en entrant sur le site, et au niveau des articles et des contenus. Peut-être Hervé ou Raphaël ?
Oui, le site à l'origine mixait les langues, c'est-à-dire qu'on trouvait, on avait une interface en français et puis des articles donc en arabe et en anglais. Donc ce qui a été décidé de faire, c'est de vraiment faire un site distinct, donc avec une interface, une navigation dans chaque langue. Donc actuellement, on peut switcher de langue en cliquant sur des petits drapeaux hein, qui correspondent à chacune des langues qu'on a mis en place. Et donc après, il y a 2 cas de figure. Soit l'article a déjà été traduit, et dans ce cas-là, on passe automatiquement sur sa version dans la langue qu'on a sélectionnée. Ou dans la majeure partie des cas, puisque au départ le site était principalement en français, on n'aura pas de correspondance. Donc on aura quand même une interface propre à l'arabe, à l'anglais et au français, avec des articles différents pour l'instant, mais qui pourront être traduits par la suite.
Très bien. Et comment est-ce que vous avez réussi à traduire tous ces articles dans leur intégralité ?
On s'est en partie appuyé sur l'IA, hein, qui offre une traduction quand même de qualité. Et la rédaction a revu, notamment en arabe, parce qu'il y a quand même des petites faiblesses dans certaines langues. Donc là, c'était plutôt un travail de relecture de la rédaction, on va dire.
D'accord. Vous parlez de WordPress. Alors effectivement, à un moment donné, au sein de la rédaction, on a eu des hésitations par rapport, disons, à l'architecture web qu'on allait utiliser, et on a décidé de poursuivre avec WordPress. Est-ce que vous pourriez juste nous dire en quelques mots qu'est-ce que WordPress et qu'est-ce que offre WordPress, Hervé?
Donc WordPress, c'est un CMS, donc un système qui permet de gérer l'information, de créer un site internet de manière automatisée. L'avantage de cette technologie, c'est vraiment justement de pouvoir étendre les fonctionnalités relativement facilement, parce que c'est le système qui est le plus répandu sur Terre actuellement, et donc on trouve une multitude d'extensions sans avoir à faire de gros développements qui énormément plus cher. Donc c'est une question de pratique et aussi financière.
On peut aussi rajouter au niveau de la philosophie de Voix d'Exil, c'est qu'on aimait bien parce que ce CMS, hein, comme vous l'avez dit, est développé en open source, hein, donc est librement accessible. Et on aimait bien aussi cette philosophie qui rejoint Voix d'Exil.
Exactement. Ouais.
Merci Raphaël. On a pas mal parlé de l'architecture, de l'organisation de l'information. Maintenant, on va plutôt parler de son apparence, hein, de son design. Alors, le nouveau site se distingue par un rendu visuel propre et beaucoup plus aéré que la version précédente. Son fond blanc et son design innovant offrent une meilleure lisibilité et une navigation plus agréable. Quels ont été les principaux objectifs, notamment en matière d'expérience utilisateur, que vous visiez à travers justement ce template? Peut-être, je m'adresse là sur ce coup-là plutôt à Raphaël Lourdin.
Alors, ici, en fait, l'idée, c'était vraiment d'améliorer la lisibilité. Donc, pour ça, on a déjà commencé par ce qui concerne la zone d'affichage du contenu, elle a été élargie et puis elle est plus adaptée finalement aux résolutions des écrans actuels. Donc, une zone plus large, donc une meilleure lisibilité aussi. On a rajouté des espaces, on a essayé de, enfin, que ce soit beaucoup plus aéré pour que l'œil vienne se poser sur chaque bloc et que, de nouveau, on améliore sensiblement la lisibilité. Aussi, on en parlait tout à l'heure, mais l'expérience utilisateur aussi a amélioré avec l'accès à l'information par le biais des filtres et puis de la navigation qui a été revue.
Très bien. Et alors, on avait eu toute une discussion parce que, effectivement, le premier site, enfin, l'ancien site a surtout été créé pour une accessibilité au niveau d'un ordinateur. Et là, cette fois-ci, ben, on le sait que dans le monde actuel, les personnes utilisent ou lisent ou ont accès plutôt à l'information à travers leur téléphone portable. Est-ce qu'un accent particulier a été mis sur ce support-là ?
Oui, alors effectivement, sur l'ancien site, le menu n'était pas vraiment adapté aux appareils mobiles. Et donc là, l'idée, c'était de recréer un menu vraiment que pour les versions mobiles, avec une accessibilité beaucoup plus rapide au niveau des catégories, qui intègre aussi la recherche et le changement de langue, toujours dans l'optique d'améliorer l'expérience utilisateur.
Oui, alors justement, ça m'intéresse parce que, alors, est-ce que imaginer un site web pour un téléphone portable, est-ce que c'est carrément presque repenser entièrement le site web ou bien il y a une fonction automatique qui vous transcrit votre site web sur le téléphone portable, Raphaël ?
Sur WordPress, il y a d'autres systèmes qui permettent de faire une adaptation automatique. Alors, ce n'est pas le cas sur WordPress, avec le système qu'on a utilisé. Et puis, il y a un style de développement qu'on appelle le mobile first, c'est-à-dire que comme les téléphones mobiles, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais c'est en tout cas un peu plus de 50% du trafic sur un site Internet. Donc, la version mobile est vraiment très importante. Et effectivement, on peut avoir deux approches, soit ce qu'on appelle du full responsive, c'est-à-dire qu'on adapte complètement le contenu de la version desktop à la version mobile, où on peut avoir une approche adaptative avec un contenu qui peut être différent pour une version mobile ou pour une version desktop. Mais là, en l'occurrence, pour le nouveau site de Voix d'Exil, on est sur du responsive, c'est-à-dire qu'on n'a pas un contenu différent en fonction de la version sur laquelle on se trouve. Mais on a juste un aspect au niveau de l'interface qui est pour le coup adapté au mobile, taille des images, le menu, par exemple, toutes des petites choses comme ça qui sont spécifiques aux versions mobiles.
Très bien. Et pour terminer, une question peut-être qui s'adresse davantage à Hervé Cotrèze. Est-ce que le nouveau site permettra davantage de mettre en valeur les 1300 articles publiés entre 2010 et 2025 en termes de visibilité sur Internet ?
Oui, justement, comme on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment ce système de filtre qui va permettre de suivre un sujet et puis de vraiment... Alors là, sujet qui serait parti en 2010 et qui serait toujours d'actualité aujourd'hui, on pourrait facilement regrouper toute l'évolution justement en appliquant un filtre. Donc ça c'est très intéressant en fait pour les gens qui ont un intérêt particulier sur une thématique.
Nous voilà arrivés au terme de cette interview consacrée au nouveau site internet de Voix d'Exil. Un grand merci à Raphaël Lourdin de l'agence Culture Web et à Hervé Cotrèze de l'agence Absilom de nous avoir rejoints en duplex de Genève. Merci également pour toutes vos explications. Et un grand merci aussi à Alexis Akodjenou, civiliste à la rédaction. Merci pour cet échange riche et surtout... un grand merci pour votre magnifique travail. Je vous invite à vous balader bientôt sur notre nouveau site. Il sera bientôt accessible sur voixdexil.ch. N'hésitez pas à partager avec nous vos retours d'utilisateurs et utilisatrices en laissant un commentaire juste en dessous de l'article. Et surtout, à vous abonner gratuitement à Voix d'Exil. Je vous souhaite une très belle découverte et à bientôt.